Jean Giraudoux, surenchère. Ce n'est pas sans raison que Claude Higgins de Hartford décida de se tuer. Il voyait disparaître en quelques jours les trois seuls biens auxquels il attacha quelque importance. Il perdait d'abord sa fortune, dans un krach jusqu'au dernier centime. Il se voyait ensuite dépossédé du championnat du monde de pistolet par un Australien. Enfin, Gladys, sa fiancée, lui rendait sa parole et lui réclamait ses lettres. S'il n'y a qu'une façon de venir au monde, il y en a mille d'en sortir, et choisir entre elles est chose délicate. Se tuer d'un coup de revolver eût été, après la défaite du stand, un goût douteux. S'électrocuter était d'un parvenu. Charlie donc prit le parti de se noyer. Et comme il nageait honorablement pour éviter toute manifestation importune de l'instinct vital, il décida de se jeter dans le Niagara. Comme la Tour Eiffel en France, c'est une institution nationale qui garantit la bonne exécution des suicides. Et eût-on oublié la clause la plus intéressante de son testament, il n'est pas davantage possible de s'arrêter entre la deuxième et la troisième cataracte qu'entre le deuxième et le troisième étage du monument parisien. Au saut du train, Charlie s'orienta vers le monument, lentement, à travers les promenades du Niagara Falls, qui semble, tant résonne le sol, être une cité souterraine. C'était au terme d'un hiver pluvieux et boueux. Il n'y avait guère, le long du fleuve, que quelques touristes allemands, portant entre la nature et leurs yeux myopes, comme des lunettes, leur Bettbecker, et des couples d'amoureux qui, avec des rires et des cris d'effroi, faisaient semblant, sur les ponts, de se pousser dans les rapides. Charlie parcourut les îles, grimpa sur le rocher des chèvres, et soudain, il prêta l'oreille. On marchait derrière lui, depuis un bon moment, avec précaution. Les pas se rapprochaient au tournant, dangereux, s'attardaient au contraire, quand le roc devenait plan, pour redevenir, dès qu'on côtoyait une cascade, plus proche et plus menaçant. Les gens qui vont se suicider évitent peut-être encore les araignées et les chenilles, mais ne redoutent pas les agressions. Charlie, heureux de l'aventure, décida d'attirer l'assassin ou le voleur dans un petit îlot où nul ne les dérangerait. Il n'y avait qu'à enjamber un ruisselet plus bruyant que dangereux. Et avant de le franchir, le dernier Rubicon, ce n'était point là une affaire. Il sauta. On sauta derrière lui. Il patauga même un peu. Il gravit un rocher qui surplombait un gouffre au-dessus duquel mille arcs-en-ciel se croisaient, se fondaient et se dédoublaient comme des rosaces de cinématographe. On grimpa derrière lui, non sans glissade répétée. Alors il se retourna brusquement, la face tatouée d'un Iroquois en costume de guerre, lui moins troublé que ce qu'il vit. Au lieu du bandit classique auquel il s'attendait, une jeune fille, blonde et jolie, comme on en voit sur les affiches, lui souriait. « Monsieur Higgins ?» demanda-t-elle seulement. Charlie s'inclina. « Monsieur Higgins, je suis membre actif de l'association des partisans du Seigneur. Vous connaissez ces églises de Boston ? On vous avait visité comme tous la chambre présidentielle, dont tous les objets, même la baignoire, sont d'or massif. Viens, je viens, en son nom, vous rappelez que le suicide est un péché mortel, et vous conjurez de vivre pour le salut de votre âme. Oh, tous mes regrets, miss, c'est impossible. Vous êtes bien résolu à mourir ? Je le suis. Vous jurez que vous ne changerez point d'avis ? Je jure. Alors, monsieur Higgins, permettez-moi d'exposer la seconde partie de ma mission. Je suis également mandataire de la maison Forget d'Indianapolis. Son cirage et ses vernis ne vous sont pas inconnus. Et la maison Forget vous offre 20 000 $ payable à celui de vos parents que vous désignerez, si dimanche, vous vous jetez du pont suspendu avec une banderole qu'elle vous fournira et qui porte sa marque de fabrique. Allez, je penserai ce soir à minuit, 8 heures, à votre hôtel, chercher la réponse. De même que les paysans, dès qu'on leur marchant d'un vieux meuble, une vieille assiette qu'il croyait sans valeur, refuse de la vendre, Charlie, alors, qui se serait précipité gratis, voilà quelques minutes, dans les bras de la mort, hésita, comme on lui offrait de payer ce geste 20 000 $. Il se rendait vaguement compte que la vengeance qu'il voulait tirer en mourant de sa fiancée, de l'Australien et de la fortune, en serait diminuée. Un corps trouvé par hasard, inconnu, mystérieux, est une sorte de lettre anonyme, comme contre la société. Elle en souffre plus que du suicide d'un homme célèbre. Charlie pensait à tout cela et il regagna mélancoliquement sa chambre. Il avait à peine fini de s'y laver les mains quand on frappa à la porte et on entra sans prendre la peine d'attendre la réponse. C'était une jeune fille, aussi agréable à regarder que la première, assurément. « Monsieur Higgins ?» s'exclama-t-elle. « Lui-même, mademoiselle. Monsieur Higgins, je représente la maison Harris de Cincinnati, Nichols et Piccadilly. » Charlie lui coupa la parole. « Ah, la maison Harris se présente trop tard, miss. J'ai déjà presque traité avec la maison Forbet. » « Je le sais, monsieur Higgins. Alors je vous offre 10 000 $ de plus. Je repasserai ce soir à 7h30 pour connaître votre décision. » Elle disparut. Alors Charlie s'accouda à la fenêtre, le soir tombait, une étoile vacillait au-dessus du gouffre, c'était l'heure biblique où s'éveille dans toute âme anglo-saxonne Le pasteur qui somnole, Charlie demanda pardon au ciel d'avoir péché contre l'humanité en choisissant le Niagara, monstrueux, pour engloutir un faible corps humain. Il passa dans son cabinet de toilette, emplit la baignoire jusqu'au bout et s'y noya modestement. Jean Giraudoux.